Alors, on change complètement d'univers maintenant, puisque comme chaque mois, dorénavant, nous accueillons Bruno Denas. Bonjour Bruno.
Bonjour Jacques Monin, bonjour à tous.
On rappelle que vous êtes le médiateur de Radio France. Vous recevez donc les remarques que les auditeurs vous font remonter sur Secret d'Info. Et c'est l'occasion pour nous de répondre aux interrogations et aux critiques que vous avez pu recevoir à notre sujet. Et pour ce qui est de nos dernières enquêtes, Bruno, il y a un sujet qui a particulièrement fait parler.
Oui, même pour tout dire, les nombreuses réactions reçus m'ont étonné. Parce que quand vous enquêtez sur les pratiques douteuses ou illégales d'une grosse société, alors là, la majorité des messages reçus montrent une indignation, voire une colère. Et au début du mois dernier, vous avez raconté cette pratique, pour le moins illégale, de PME, souvent des artisans qui domicilient leur entreprise en Angleterre pour ne pas payer les cotisations sociales. Et là, surprise, les fraudeurs suscitent une certaine sympathie. Caroline est très vindicative. Et si vous parliez des gros poissons, foutez la paix aux artisans. Et pour Nikki, il n'y a pas de raison que les grands groupes le fassent et pas les petites entreprises. Alors évidemment, c'est un drôle de raisonnement. Que Roland explique d'une certaine façon, vous parlez d'un scoop, ce cabinet breton qui offre ce genre de pratique est connu des entreprises et des autorités depuis 20 ans.
Donc en clair, on vous dit allons-y, fraudons tous. Quoi, hein. Bien, alors c'est Sylvain Tronchet qui avait enquêté là-dessus. Alors qu'est-ce que vous répondez, Sylvain, à ceux qui trouvent normal finalement chez des plus petits des comportements qu'ils condamnent par ailleurs chez des gros?
Alors on peut toujours avoir un débat sur le niveau des cotisations sociales qu'on peut trouver légitimement ou pas, mais trop élevé chez les artisans. Et les commerçants. Ceci dit, il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas s'exonérer du respect de la loi parce qu'on la trouve trop compliquée à respecter. Et puis, venir nous faire le procès de viser spécifiquement des petits artisans, c'est oublier par exemple que la cellule d'investigation, lorsqu'elle enquêtait sur les Paradise Papers, a enquêté sur les méthodes de défiscalisation de sociétés comme Total, par exemple, qui pour le coup n'ont rien de commercial.
J'ai l'impression que ce n'est pas tant finalement le procès de dire vous ne parlez pas des gros, vous parlez des petits. C'est plus quelque chose qui consiste à dire en fait non, quand ça touche des artisans, ils sont victimes d'une injustice, donc finalement il faut bien qu'ils se débrouillent.
Oui, enfin,
donc on comprend, on légitime. C'est un peu ça qu'on entend.
Small is beautiful, oui, quelque part, quelque chose comme ça. Il n'en reste pas moins que ces méthodes restent hautement douteuses au regard de la loi et que, encore une fois, cela concerne plusieurs centaines de sociétés, plusieurs milliers, et d'après les informations que j'ai eues à la suite de cette enquête même, il y a des raisons de penser que ce genre de montage existe avec d'autres pays, l'Espagne notamment, on a eu des signalements en ce sens.
Bien, alors un autre sujet a suscité pas mal de réactions, Bruno, c'est l'enquête d'Élodie Guéguin sur le financement des partis politiques grâce à l'argent de la formation des élus.
Oui, là encore, les réactions sont en demi-teinte. Certains auditeurs ne s'attaquent pas aux pratiques douteuses des partis et des élus, mais à celui ou celle qui les révèle, en l'occurrence, un ou une journaliste. Pour Marc, arrêtez avec ce raisonnement, les élus tous pourris, il y a des milliers d'élus dans les villages, comme moi, qui donnent énormément de leur temps et qui ne se remplissent pas les poches. Nous avons aussi besoin de formation.
Oui, bon, je crois qu'en fait, on n'a pas dit le contraire, me semble-t-il, Élodie. Vous êtes toujours avec nous. Alors, est-ce que vous avez stigmatisé la formation ou les élus?
Non, bien au contraire. On a cette impression, la formation, elle est indispensable. On n'a pas dit l'inverse. D'ailleurs, les crédits alloués aux élus municipaux sont sans doute insuffisants. Donc, on a un, des crédits limités. Puis deux, c'était l'objet de notre enquête, des crédits qui sont parfois dévoyés par certains partis ou par des instituts de formation qui servent à financer des séminaires, des voyages, des rendez-vous militants, ce qui ne correspond pas.
Oui, en fait, c'était le dévoiement par les partis.
Exactement,
qui créent
pas forcément
leurs propres
par les élus ou les petits élus, ouais. C'est pas ce qu'on a dit. Alors, j'entends quand même un mot sur cette critique de Marc, vous alimentez le tous pourri. On est d'autant plus sensible à cette critique que Marc n'est pas le seul à l'avoir formulée. Cela dit, s'il y a des dérives, des abus, s'il y a des conflits d'intérêts dans ce secteur, faut-il les passer sous silence au prétexte que cela est susceptible d'engendrer de la défiance des citoyens à l'égard des partis? Personnellement, je pense que non. Il y a actuellement de nouveaux partis politiques qui apparaissent dans le paysage, qui sont en train de créer leurs instituts de formation. Donc, regarder les abus qui existent ou qui ont existé, c'est aussi une manière peut-être de nous rendre un peu plus vigilants sur ce qui est en train de se faire à l'heure où des dirigeants politiques parlent tous de renouvellement des pratiques.
Oui, puis on pourrait dire que c'est un peu bizarre de demander finalement aux gens de fermer les yeux sur des choses qui ne sont pas normales. Enfin, je veux dire, on inverse un peu les hiérarchies. D'autres réactions, Bruno?
Oui, elle concerne l'enquête passionnante menée par Benoît Colomba à propos de la guerre économique souterraine que livrent les États-Unis aux entreprises françaises et européennes. Beaucoup de réactions d'auditeurs, la plus fréquente, c'est celle-ci. Pourquoi la France se laisse-t-elle piétiner? Faisons pareil. Mais est-ce possible face aux géants américains?
Alors cette fois-ci, c'est vous, Benoît Colomba, qui aviez enquêté là-dessus. Alors est-ce possible?
Alors déjà, premier élément de réponse, avant de pouvoir, il faut déjà vouloir, c'est ce que de nombreux interlocuteurs m'ont dit, c'est-à-dire qu'il y a une sous-estimation totale du problème, et même l'ex-député LR Pierre Lelouch, qui n'est pas vraiment réputé pour être hostile aux Américains, bah, le dit et l'écrit même dans son rapport parlementaire, il dit qu'il faut établir un rapport de force politique avec les Américains. Alors, ce rapport de force, il peut s'établir de plein de manières différentes. Ça peut être par la loi, ça peut être par l'utilisation du renseignement, ça peut aussi passer par la monnaie. Et puis, il passe aussi par le fait d'obliger les géants du numérique, comme Google, comme Apple, à payer leurs impôts là où ils réalisent leurs bénéfices en Europe. Et on a vu récemment avec la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, qui condamne Apple à payer 13 milliards d'euros en lien avec ses activités en Irlande. Ça énerve beaucoup les autorités américaine, mais il faudrait peut-être que ce soit une politique systématique pour qu'elle soit vraiment prise au sérieux.
Ouais. Et vous avez reçu un courrier particulièrement intéressant.
Ah oui, vous êtes vraiment écouté par tout le monde, j'allais dire, et notamment un des responsables juridiques de l'OCDE. L'OCDE, c'est donc l'Organisation de coopération et de développement économique. Il vous a écrit, il regrette que vous n'ayez pas indiqué que la France a souscrit des obligations internationales au niveau de l'OCDE et de l'ONU, concernant justement la corruption internationale. Or, à ce jour, nous dit-il, aucune entreprise française n'a été condamnée par la justice française pour ce qu'elle qualifie pourtant de crime.
Non, mais il y a deux choses dans cette question. Le premier point, c'est d'abord dire qu'il ne s'agit absolument pas, évidemment, de blanchir les pratiques des entreprises françaises. Si elles sont ciblées par la justice américaine, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, c'est parce qu'elles offrent vraiment un boulevard en matière de pot de vin. On le dit clairement, le monde clairement, dans l'enquête concernant Alstom, l'affaire Alstom.
Oui, vous ne cautionnez pas la corruption.
C'est pas ça qu'on dit. Simplement, faut pas être naïf. Les Américains, eux aussi, utilisent l'arme de la corruption dans les grands marchés internationaux. Alors, ça va être peut-être fait de façon plus discrète, passer par des paradis fiscaux, ou alors par des politiques, des aides fédérales pour soutenir certains secteurs stratégiques et pour tuer la concurrence. Il y a un spécialiste de l'intelligence économique qui m'a dit, qui a eu cette phrase très parlante, et il m'a dit finalement, les pots de vin, c'est l'arme des faibles. Et les Américains, par leur loi extraterritoriale, donc en faisant entre guillemets la loi à l'échelle mondiale, eh bien, ils vont aussi se donner le beau rôle finalement, le rôle d'une nation vertueuse.
Du chevalier blanc.
Et c'est ce qu'on appelle, alors là je vais faire un anglicisme, c'est-à-dire que les États-Unis détiennent le soft power, le pouvoir d'influence, et ce pouvoir eh bien, permet peut-être de faire en sorte que leurs mauvaises pratiques se voient moins.
Alors on va peut-être terminer, Bruno, avec la dernière enquête du mois de janvier, qui concernait, elle, le fiasco du logiciel Louvois, logiciel, on le rappelle, qui a sous-payé, ou trop payé d'ailleurs, des milliers, voire des dizaines, des centaines de milliers de militaires.
Oui, les révélations de Philippe Reltier ont choqué beaucoup d'auditeurs. Ils trouvent inadmissible, comme Christian, que ceux qui risquent leur vie pour nous soient traités de cette façon.
Ah, c'est pas les révélations qui ont choqué, alors c'est
non.
Le fait qu'effectivement,
voilà, c'est sans les faits, en fait.
On constate ça.
Alors justement, beaucoup de témoignages également de proches de militaires, comme Christine, c'est la mère d'un jeune officier qui raconte la précarité subie par son fils face au retard de versement de sa solde et l'aide financière qu'elle doit d'ailleurs lui apporter. D'autres s'inquiètent de ces militaires écœurés, dépressifs, qui quittent nombreux l'armée, alors que, comme le dit Anne, on a besoin d'eux en ce moment. Des responsables incompétents, un logiciel fou et des militaires devenus surendettés alors qu'on devrait les aider, nous écrit Mathieu qui pose cette question. Pourquoi l'État n'a-t-il aucune bienveillance à leur égard?
Alors Philippe Reltien, oui, en clair, pourquoi l'État a voulu récupérer son argent, quoi?
Eh bien, tout commerce qui laisserait partir 545 millions d'euros dans la nature se verrait condamné à la faillite. Alors l'armée, elle est condamnée à retrouver cet argent.
C'est pas un commerce, cela dit.
Ah ben oui, et l'armée, elle utilise les fonds du contribuable. Donc Bercy avoue au chapitre. Et là, la machine à recouvrer les créances, eh bien, elle marche avec le fisc. Elle cherche tous ceux qui doivent quelque chose. À peine 3000 soldats sur plus de 70 000 concernés contestent encore devant les tribunaux administratifs les sommes qu'on leur réclame. Il y a des prélèvements automatiques mensuels encore aujourd'hui sur des comptes en banque privée et il y a des familles en détresse grave. L'armée prétend qu'elle le sait et qu'elle les aide parfois au point d'abandonner ses créances. 83 millions d'euros ne sont jamais récupérés.
Ok, merci Philippe. On en reste là, Bruno?
Oui Jacques, mais je voudrais quand même ajouter simplement ce commentaire envoyé par Sylvie, une mère de soldat. Seuls les médias comme vous peuvent dénoncer de tels dysfonctionnements avec des conséquences humaines terribles. Merci et continuez. Ben c'est
merci.
Plutôt sympa.
Ouais, merci à vous, ça fait plaisir. Comme quoi, il n'y a pas que des critiques non plus. Bruno Denas, on vous retrouve donc dans un mois. Et puis j'en profite pour vous encourager à poster vos commentaires. Alors vous pouvez le faire sur le site du médiateur, médiateur.radiofrance.fr. Vous pouvez le faire sur franceinter.fr, sur la page Facebook de Secret d'Info ou bien sur Twitter, Investigation RF. Allez, restez avec nous. Dans un instant, contre-enquête sur le meurtre de Marie Trintignant, morte sous les coups de Bertrand Cantat, il y a 15 ans en Lituanie.